trop passionné.
T'as une manière bizarre de penser.
Tu pourrais faire un effort pour mieux te concentrer. Tu pourrais faire un effort pour mieux écrire.
Faudrait pas que ta condition te serve d'excuse.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, j'accueille Pierre.
Bonjour Mélodie.
On a entendu avant le générique quelques phrases qui te parlent particulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire plus et te présenter en quoi tu es un atypique du cerveau ?
Effectivement, je m'appelle Pierre, ça tu l'as déjà dit, et ça fait 25 ans que je travaille dans le secteur du jeu vidéo. Et donc ça a un certain sel de s'entendre dire régulièrement « mais t'es trop passionné Pierre, t'es trop engagé ». Et pendant très longtemps, toutes ces remarques, je ne les comprenais pas, en fait, vraiment. Je les prenais comme des critiques, comme quoi il fallait que je change mon comportement. Et il a fallu attendre que j'ai des enfants et que mes enfants se fassent diagnostiquer, en l'occurrence dyslexie et TDAH, pour enfin arriver à comprendre le sens et que c'était OK de penser différemment, parce qu'effectivement, ma manière de penser, elle est atypique. Je suis passionné, bien sûr, je ne sais pas être autrement. Et si vous voulez avoir le meilleur de mes contributions, j'ai besoin d'être passionné. Donc c'est via la découverte du diagnostic de mes enfants que j'ai commencé à me poser des questions un petit peu sur qui j'étais et mon comportement. Et ça m'a permis de comprendre que j'étais TDAH. Alors je ne suis pas encore officiellement diagnostiqué, ça va venir, mais j'ai assez peu de doutes sur le sujet. Donc voilà, il y a vraiment eu un moment clé qui a été la découverte du diagnostic chez mes enfants, en même temps un burn-out professionnel. Donc toutes les conditions requises pour prendre du recul et commencer à réfléchir. Et l'image que j'utilise souvent, je crois, c'est... J'ai eu l'impression à ce moment-là, c'est comme si j'avais passé ma vie dans une petite pièce de 25 mètres carrés. Et puis à un moment donné, j'ai trouvé un interrupteur, je l'ai allumé et j'ai découvert que je ne vivais pas dans une pièce de 25 mètres carrés, mais dans un hangar de 2000 mètres carrés. Et ça change complètement la perspective, en fait.
Comment ton entourage le vit, cette différence-là ?
C'est une très bonne question parce que ça a été difficile. Il y a eu plusieurs choses. D'abord, il faut que je parle de moi, c'est-à-dire qu'au moment où mes enfants ont été diagnostiqués, je n'étais pas vraiment présent. J'étais absent et j'ai plutôt refusé de voir ce qui se passait. C'est ma conjointe qui a été en première ligne dès le début. Moi, je ne l'étais pas. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est un comportement qui peut être fréquent chez les papas. Je pense que c'est lié en fait à l'image ou la projection sociale qu'on a du rôle des pères dans la famille. Et ben, mes deux garçons, ils sont dyslexiques et TDAH. Il y en a un qui est particulièrement hyperactif. Où ça a été très difficile avec comportement violent. Et la première réaction de mon entourage, ça a été un rejet. C'est la réaction malheureusement typique que l'on rencontre en France, mais pas qu'en France, qui est « mais tu sais pas élever ton enfant, tu sais pas le tenir sur la dyslexie, c'était « mais tu crois pas que si t'expliquais à ton fils que si la lecture est importante, il ferait plus d'efforts pour y arriver ». Je me suis pris tous les stéréotypes et au début, j'avais un comportement de fuite. J'ai commencé à m'intéresser, à comprendre. Et ce moment-là, il a été clé parce qu'il y a un moment de bascule, je pense. C'est comme si tout d'un coup, la pièce dans laquelle on vivait, pour reprendre cette même analogie, on retirait le sol, le plafond et les murs. Et on se retrouve à flotter dans l'espace. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre société, on a pris l'habitude, et c'est lié à l'école, hein, ça commence à l'école, de penser que tout est une question de volonté, que quand on veut, on peut. Et qu'un enfant qui se comporte mal à l'école, c'est un enfant mal élevé. Un enfant qui ne sait pas écrire, c'est parce qu'il ne fait pas assez d'efforts. Ce qui est une hérésie complète en matière de neurosciences. Hein. C'est prouvé par A plus B que c'est faux. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de capacité. Et que quand mes garçons ils ont du mal à lire, à écrire, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Et que donc, il va falloir mettre en place des stratégies pour qu'au niveau de leur cerveau, ils puissent acquérir d'autres manières d'approcher la lecture, l'écriture. Et la même chose est valable sur tous les process de focus et de concentration. C'est un petit peu comme réaliser que la Terre est ronde, alors qu'on a été élevé avec la croyance que la Terre était plate.
Attention en fait, aux platistes qui écoutent peut-être, on ne sait pas.
Oui, on ne sait jamais. Ça a été tout en chemin, ça a remis en cause énormément de choses parce que se rendre compte de ce qui se passait réellement dans le cerveau de mes enfants, puis dans le mien, parce qu'évidemment, quand j'ai vu leur comportement, à un moment donné, on a commencé à dire, puis j'ai la phrase typique que plein d'autres personnes vont raconter, ma conjointe me dit, mais attends, c'est toi? Ça, c'est une scène qui se reproduit partout, partout, chez tous les adultes qui se font diagnostiquer. Donc, j'ai 50 ans, voilà, je suis dans une génération où TDAH et dyslexie à l'école, pas vraiment, hein. Je n'ai pas trop attention à ça. Donc, je fais partie de cette génération qui se fait qui réalise via leurs enfants qu'ils ont peut-être une condition neurologique. Et on découvre plein de nouvelles choses. Et moi, ben, les remarques, je suis trop passionné, ben, bien sûr. C'est moi, en fait. Et si tu veux moi, c'est ça que tu auras. Et si tu me demandes de ne pas être passionné, je vais rien faire. Je vais te filer quelque chose sans saveur, puis je vais pas avoir envie de faire quoi que ce soit. Je pense bizarrement, oui, je fais des associations d'idées. J'ai plus de facilité à voir la big picture. J'ai beaucoup travaillé sur des postes stratégiques où j'étais plutôt à l'aise. Dans les postes opérationnels de mise en place des détails, j'ai beaucoup plus de mal. Pour moi, c'est naturel. J'ai des liens que je vois naturellement, que d'autres ne voient pas tout de suite. Et une manière de penser qui est atypique, ouais.
Alors justement, tu en parles, hein, au-delà de la vie perso, il y a la vie pro. Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport au travail, si ça a changé quelque chose?
Ça a tout changé, en fait. Le moment de révélation pour moi, c'est un moment où mes enfants ont connu un pic de difficulté à l'école. Et puis au même moment, au niveau professionnel, c'était difficile, c'est-à-dire j'ai fait un burn-out. Et à partir de là, je me suis remis en cause. Moi, j'ai un profil de manager, j'ai toujours été manager, j'ai travaillé dans la partie plutôt business, puis ensuite développement, j'ai eu des rôles de responsable exécutif. Je me suis épuisé pendant longtemps, puis je me suis effondré. Et là, en fait, j'ai dû revoir complètement ma manière de voir les choses, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Et ça m'a aidé, ça m'a conduit à rechercher quel type d'activité, de fonction je pourrais occuper au sein de l'entreprise. Et c'est là que petit à petit est venue l'idée de et si je travaillais sur je travaillais sur le sujet de la neurodiversité en entreprise. Pourquoi ça? Parce que d'abord mes enfants sont diagnostiqués, ensuite je réalise que je connais ces problématiques-là. Et puis il y a une troisième réalisation, c'est que je travaille dans une boîte de jeux vidéo. Qui a créé l'industrie du jeu vidéo? Des geeks, des nerds, des techies. C'est des neurodivergents en fait. C'est nous qui avons créé l'industrie. Et en fait, j'ai réalisé qu'au cours de mes 25 ans de carrière, j'ai rencontré plein de personnes. Et en faisant quelques recherches, je me suis aperçu qu'il y avait une étude qui existait sur les développeurs qui travaillent en Angleterre dans des sociétés de jeux vidéo, où 18% d'entre eux s'auto-identifient comme neurodivergents. Donc c'est un peu plus que le chiffre dont on parle en général sur la population générale. On dit souvent c'est 15%, même si je pense que c'est plus. Donc dans l'industrie du jeu vidéo en Angleterre, c'est 18%. Et fait particulièrement intéressant, en Angleterre, il y a 4% des développeurs de jeux qui s'auto-identifient comme autistes et 10% comme TDAH. C'est deux fois plus que dans la population générale. Et si j'essayais de proposer une activité autour de la neurodiversité, il me semble qu'il y a quelque chose à faire parce que bah, on est une industrie qui attire beaucoup ce genre de profil atypique. Parce que pour faire des jeux vidéo, hein, c'est une nouvelle discipline, ça a 50 ans, c'est tout jeune, ça bouge tout le temps. Donc j'ai cette idée qui m'est venue et j'ai profité d'un contexte favorable qui était la création et le lancement d'un département diversité et inclusion. J'ai donc d'abord proposé de me dire, bah, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau RH. Parce que je pense qu'on est beaucoup dans la société, mais on est invisible. Et comme pour les 10 ou 20 années à venir, on sait pertinemment que dans tous les métiers de l'informatique, il va y avoir une pénurie de talents. Donc j'ai commencé comme première idée, je me suis dit, il faut essayer de compter combien nous sommes.
Quelles que soient les études, les pays, c'est difficile de trouver des vrais chiffres, entre guillemets.
Absolument. Et puis les méthodes utilisées par les différents pays varient beaucoup. D'ailleurs, c'est assez intéressant de constater qu'en France, officiellement, il n'y a que 1% de personnes dans le spectre autistique,
Est-ce que
alors que
j'ai...
dans la quasi-totalité du reste du monde, c'est
C'est
2%.
2%.
Voilà. Donc je pense que la statistique française, pour le coup, elle est bien faite, parce que j'ai plutôt confiance dans la méthodologie derrière, mais elle ne fait que refléter le retard de la France sur la prise en charge de la question de l'autisme.
Surtout d'ailleurs,
Voilà.
c'est sur l'autisme, si on voit que c'est encore sur 4 individus diagnostiqués, il y a 3 hommes pour une femme, ça pose aussi des
Ah bah
questions sur les diagnostics.
ça c'est très intéressant parce que pour refaire le lien avec ce que j'ai dit, donc ma première initiative c'était de créer un groupe ressources employées. On a commencé il y a un peu plus de 2 ans, on était 2-3 et là on est 450. On est 450 dans 20 pays différents. On a un forum en ligne privé, donc c'est sécurisé sur lequel on échange. Et pour faire un parallèle avec ce que tu viens de dire sur la problématique de genre et neurodiversité, ben, il y a un fait établi hein, en matière de neurosciences, c'est qu'il y a un sous-diagnostic massif des femmes et des minorités ethniques. Sur les différentes conditions neurologiques, notamment l'autisme, TDAH. Par contre, dans mon groupe, alors que nous sommes une société de jeux vidéo, il y a 80% d'hommes, eh ben, il y a plus de 70% des membres qui sont femmes ou non-binaires. Et oui, c'est de l'intersectionnalité. Je sais que c'est vu comme un gros mot en France par certains, mais en fait, c'est un fait. L'intersectionnalité, c'est quand on cumule plusieurs couches de rejet ou d'exclusion. Donc, effectivement, aujourd'hui, une femme autiste et qui fait partie d'une minorité ethnique, elle cumule trois dimensions d'exclusion potentielles. Un homme blanc autiste, non, il n'en a qu'une. C'est l'autisme. Donc ça, c'est un fait avéré. C'est assez intéressant de voir. Donc, je lance ce groupe, la mayonnaise prend. Il y a beaucoup de monde tout de suite qui vient et qui vient de tous les horizons. Donc il y a tous les âges, tous les niveaux de responsabilité, tous les métiers. Et très vite, sur ce forum privé qu'on établit, il y a quelque chose qui se crée, c'est des groupes de discussion par affinité. Où tout d'un coup, il y a quelqu'un qui propose de créer un groupe de discussion TDAH, et là, le groupe, il s'enflamme tout de suite. C'est comme si on avait ouvert une boîte de Pandore. Et en fait, on a lancé, en fait, sans s'en apercevoir, des groupes de pair aidance, donc de peer support en français. Donc aujourd'hui, on a un channel dédié pour les TDAH, un autre pour les autistes, un autre pour les dyslexiques qui est en cours de création, un autre pour les HPI. Il y en a un autre aussi qui va arriver sur les parents.
Alors, comment tu traites l'intersectionnalité justement? Parce qu'on peut être, par exemple, autiste et avec un TDAH.
Ben, ces groupes ne sont pas exclusifs. On est à l'intérieur d'un espace en ligne, c'est Microsoft Teams, qui est sécurisé, donc privé. Pour y rentrer, il faut devenir membre, il faut signer un papier. Les conditions qu'on demande, elles sont simples. Hein. C'est tout le monde peut rentrer, même si tu es neurotypique. Il faut simplement que tu aies un intérêt sincère sur le sujet et surtout que tu rejoignes le groupe à titre individuel, pas en tant que représentant d'une association externe ou d'un département interne. Ça, c'est très important pour créer cette dimension de psychological safety dans le groupe qu'on va pouvoir partager. Et ensuite, à l'intérieur de ce groupe privé, ben, il y a des sous-channels et en fait, les gens qui s'identifient, il y en a beaucoup. Avec plusieurs conditions, bah, ils vont dans les différents channels, il n'y a pas de souci. Donc il y a des gens qui postent un peu dans différents channels et la discussion est vraiment extrêmement riche. Ce groupe, il a fait beaucoup en matière de sensibilisation au sein d'Ubisoft sur ce qu'est la neurodiversité. On a trouvé de l'écho parce que on est beaucoup de neurodivergents dans le jeu vidéo. Et puis, il a fait beaucoup, énormément, je dirais, sur cette dimension-là. C'est-à-dire d'apporter de la psychological safety. Il y a des discussions dans nos forums en ligne que j'ai rarement vues en entreprise. Donc, c'est des gens qui viennent demander conseil aussi bien sur leur vie privée que sur leur vie professionnelle parce qu'ils savent qu'ils peuvent dire, un profil TDAH typiquement, il y a des threads de discussion sur comment vous préparez vos évaluations, comment vous gérez votre sommeil, quels sont les outils que vous utilisez pour mieux vous organiser. Quel est le type de musique que vous écoutez, quels sont les noise cancelling headphones que vous utilisez au travail, etc. etc. Et il y a des questions de tout type qui sont posées à un échange très spontané. Puis je pense que la dimension internationale du groupe, elle rajoute une saveur assez intéressante. C'est que, il y a quelqu'un en France qui peut poser une question et c'est quelqu'un au Canada, en Australie ou en Europe de l'Est qui va lui répondre. Et ça apporte beaucoup de richesse, je pense, aux échanges. Donc, le succès de ce groupe qui continue, hein, chaque semaine, on enregistre des nouveaux membres. Chez Ubisoft, on est 22 000, donc je pense que on devrait être environ 20% de neurodivergents entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Donc, on a de la réserve encore. Bah, le succès de ce groupe, ça m'a permis de proposer une étape supplémentaire qui était de créer un programme RH dédié de gestion des talents neurodivergents. Et
Alors,
donc,
j'allais
ça
dire,
a été.
t'es modeste là, tu nous parles du groupe que tu as créé, mais tu as quand même réussi à aussi créer le poste que tu occupes et qui est pour le moment, mais j'espère que ça va changer, unique enfin en France ou même en tout cas plus globalement dans une boîte comme la tienne, un grand groupe plutôt comme le tien. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Ouais,
C'est
bien
quoi
sûr.
ton poste, ton titre?
Oui, je l'ai créé. Et d'ailleurs, le titre, c'est, je vais vous le faire en anglais, c'est Neurodiversity Program Director, donc directeur du programme Talent Neurodiversité. Il est unique, mais c'était volontaire de ma part et de la part de mon employeur aussi, parce que la création de ce poste et de ce programme, on a une intention, c'est d'essayer vraiment d'aider l'entreprise pour laquelle je travaille, de devenir à terme un modèle en matière de neuro-inclusion au travail. Pourquoi l'entreprise est partante? Parce qu'il y a un intérêt évident pour Ubisoft comme développeur de jeux et qu'il y a un intérêt que plein d'autres entreprises peuvent avoir. On sait que dans les métiers du digital, on n'a pas assez de talents formés, ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc il faut absolument, dans les 10 à 20 ans à venir, qu'on arrive à élargir notre manière de recruter. Il faut qu'on arrête d'aller recruter systématiquement dans les mêmes écoles parce que le pool de ressources, il est limité. Donc il faut qu'on aille ailleurs et quelles sont les poches de talents qui sont inexplorées? C'est celles où on retrouve toutes les minorités. C'est-à-dire les gens qui souvent se sont fait rejeter à un moment donné du système scolaire ou bien du marché du travail. Donc ça, c'est le premier intérêt. Et puis il y a un deuxième intérêt, on est une société de création de contenu. Le jeu vidéo, c'est créer du contenu. Donc on est en innovation permanente. Un jeu vidéo aujourd'hui, comparé à un jeu vidéo d'il y a 10 ans, ça n'a rien à voir. Au niveau visuel, audio, qualité du contenu, diversité des contenus, c'est énorme la différence. Donc on a besoin d'une créativité intense et donc on a besoin de personnes atypiques. On ne fait pas un jeu vidéo comme on fait un ERP, pardon, pour ceux qui connaissent les logiciels SAP ou autres qui gèrent la compta et tout. Non, c'est pas comme ça qu'on fait un jeu vidéo. C'est l'exact inverse. C'est de la créativité permanente et des idées atypiques en permanence. Donc on a fortement besoin de ce genre de profil. Donc ça a motivé l'entreprise à créer un programme spécifique avec une dimension supplémentaire, qui est la réalisation qu'a priori, on a beaucoup de profils atypiques, mais ils sont invisibles. On ne sait pas forcément comment permettre à chacun d'exprimer pleinement leur talent. Donc ça, c'est la motivation du programme. Et ce programme, il commence par un premier volet en 3 ans, qui est cette année, le focus, c'est sur la mise en place de formations à destination d'abord des recruteurs, puis des ressources humaines et enfin des managers. Donc là, je suis dans la réalisation de ce contenu. On a déjà livré le contenu pour les recruteurs. Puis l'année prochaine, ça va être un gros focus sur l'intégration et l'inclusion pour s'assurer que, ben, d'une part, les trainings sont déployés, mais aussi les politiques locales sont adaptées, sont implémentées. Ici, on va parler en particulier de renforcer et mettre en place une politique, pardon, je vais avoir le terme anglais en tête, mais de reasonable adjustment, donc d'aménagement des postes de travail. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, ça va être d'aller explorer des pistes alternatives de recrutement avec des partenaires externes qui seraient à même d'identifier des candidats qui ont du mal à émerger dans le système scolaire traditionnel ou sur le marché du travail. C'est l'objectif de ce programme et jusqu'à présent, ça se passe bien. Ça génère surtout beaucoup d'intérêt de pas mal de personnes parce que beaucoup de gens s'y retrouvent. Et puis, il y a un truc important, hein, je pense, c'est que aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, après la crise du Covid, tout le monde a commencé à réaliser cette notion de crise de sens, crise de motivation. On parle d'un manque de sens et d'objectif ressenti par les employés qui est particulièrement fort dans ce qu'on appelle les générations Z. Donc la Gen Z, c'est les jeunes qui arrivent, qui ne vont pas rester chez un employeur qui ne propose ni meaning ni purpose. Donc voilà, je suis en train de me perdre comme tout bon TDAH lorsque je te réponds.
Non, non, ça se tenait, tu avais les 3 points.
Bon,
C'est...
super,
Non, non,
super.
ça se suit.
Et donc, ça, ce programme, il est un peu unique pour l'instant. Ce que j'espère et ce qu'on espère, c'est qu'il donne des idées à d'autres. Parce que, en fait, ce que je raconte dans le contexte d'Ubisoft et du jeu vidéo, ça fait beaucoup de sens pour le jeu vidéo. C'est assez. On arrive à faire les connexions. Mais en fait, il n'y a pas que chez nous où il y a beaucoup de profils neurodivergents. Je pense qu'en fait, dans toutes les entreprises, il y a beaucoup de profils neurodivergents. Sauf qu'ils sont tous invisibles. Et donc, un des messages pour moi en discutant avec toi aujourd'hui, c'est de dire, bah, quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous êtes atypique du cerveau, pour reprendre le nom du podcast, vous n'êtes pas tout seul. Le seul problème, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas de lieu, pas de moyen de se connecter avec les autres. Bah, ça, c'est possible de les créer. Les fameuses approches diversité et inclusion peuvent vous donner l'opportunité dans votre entreprise de créer un groupe d'affinité ou un groupe de discussion. Et vous allez voir que si vous le faites, il y a des gens qui vont venir. Et souvent, ce qui aide, c'est quand une première personne accepte de partager son histoire personnelle. Et là, les gens vont se joindre. Et ce qui peut se passer, c'est une vraie libération de la parole. Et je trouve qu'il y a un parallèle assez intéressant avec l'histoire du mouvement de la neurodiversité, hein. Le terme a été créé en 1989 par Judy Singer, une sociologue australienne, et dans son travail de recherche, qui est autiste, dans son travail de recherche, elle avait mentionné la première constitution de groupe de personnes autistes sur, en ligne. Donc c'était des serveurs IRC à l'époque, gérés en Hollande, et il y avait un serveur pour les personnes autistes et un autre serveur pour les parents. Et en fait, l'apparition de ces serveurs, ça a tout changé, parce qu'on parlait du chiffre de l'autisme dans le monde, c'est entre 1 et 2%. Dans une communauté physique locale, si vous ne représentez que moins de 2% de la population, vous allez avoir du mal à trouver des pairs. Mais à partir du moment où les forums en ligne sont apparus en Hollande, en l'occurrence là, tout d'un coup, quelqu'un en Australie pouvait se connecter avec quelqu'un aux États-Unis, en Angleterre, en France, et tout d'un coup, la communauté devient plus grande. Et là encore, je me perds. Il faut que tu m'aides. Au secours, aide-moi.
Alors, en tout cas, le fait de ne pas se sentir seul et qui est aidé par les groupes qui peuvent être créés au sein d'entreprises, mais même plus globalement, et on le voit en effet des groupes, tu parlais de pairs aidants, mais même en tout cas de parler du sujet, rien que de parler de ces sujets-là, ça permet de se sentir moins seul et de faire progresser aussi tout ça.
Exactement. Et j'ai eu récemment un commentaire d'un parent d'enfant qui a des troubles 10 qui me disait, mais tu sais, Pierre, pour moi, c'est plus facile de parler de ce sujet-là à mes collègues d'entreprise que dans mon entourage. Parce que le contexte de l'entreprise par rapport à ce sujet-là est plus neutre. Si j'en parle à ma famille et mes amis, il y a toujours la peur d'un jugement très fort. Et donc, le fait de créer des groupes de discussion avec des espaces privés, ça libère encore plus la parole. Et ça, bah, ça permet de faire quoi? Ça permet de construire ce qu'on appelle la psychological safety en entreprise. Donc, sécurité psychologique en français, c'est pas terrible. C'est pas les risques psychosociaux, c'est autre chose. Ici, ça fait référence à des concepts qui ont été popularisés par des gens comme Amy Edmondson, mais aussi par une petite entreprise américaine qui s'appelle Google, qui
a fait une étude. J'en ai entendu parler, je crois.
Qui a fait une étude il y a quelque temps sur ce qui constituait, une énorme étude de 2 ans sur ce qui constituait l'efficacité de leurs équipes. Quels étaient les facteurs d'efficacité de leurs équipes? Et au bout de 2 ans de recherche, ils sont venus avec comme critère numéro 1 la sécurité psychologique. C'est le projet Aristote de Google. Donc, si vous voulez chercher sur Internet, vous faites Project Aristotle Google et vous aurez toutes les références. Et c'est assez intéressant. Ça dit simplement que si vous voulez, en entreprise, une équipe qui performe, il faut avoir des gens qui se sentent bien et qui se sentent en sécurité. Et la sécurité psychologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir partager des idées atypiques à contre-courant, ne pas se faire blâmer, ne pas se faire critiquer parce qu'on fait des erreurs, mais se sentir à l'aise de faire des erreurs, de partager. Et ça, c'est l'ingrédient essentiel avant tout le reste de très, 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 très loin. Et donc, je pense que ces groupes-là de discussion, ben, ils peuvent contribuer à créer un climat de sécurité psychologique.
Eh ben, écoute, merci beaucoup, Pierre. Sécurité psychologique, je pense qu'on va, rester là-dessus pour finir. Je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. Avant de se quitter, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais partager, un conseil peut-être pour des personnes qui écoutent ou qui se posent des questions ou pour leur entourage?
Absolument. Je vais reprendre un peu ce que j'ai dit. J'ai dit, si vous êtes en questionnement ou si vous vous identifiez comme personne neuroatypique, d'abord l'auto-identification, pour moi, c'est OK.
Il n'y a pas de mal. C'est des débats qu'on a dans les pays anglo-saxons. On dit que c'est valide, enfin, c'est valable plutôt, pas encore en France.
Voilà. Je dirais c'est OK parce que la réalité statistique dans le monde entier, c'est qu'il y a un retard massif du diagnostic dans toutes les conditions neurologiques qui est expliqué par le fait qu'il n'y a pas assez d'investissements faits dans les structures de santé mentale à travers le monde, que le retard accumulé est terrible, que certains d'entre vous, vous êtes peut-être au courant de 2 ans de temps d'attente en France pour avoir accès à un diagnostic autisme, parfois à un orthophoniste si vous passez par un CMP dans certaines régions. Ben en fait, cette data-là, 2 ans d'attente, c'est partout dans le monde, partout. En Amérique du Nord, en Angleterre, dans les autres pays européens. Donc, c'est catastrophique. Donc, ça me fait dire que si vous êtes en interrogation, l'autodiagnostic, c'est OK. Maintenant, bien évidemment, je vous encouragerais à faire les démarches pour aller chercher un diagnostic officiel. Mais surtout, le message qui va avec ça, c'est on n'est pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. On est nombreux, on peut se contacter, on peut échanger, et ça fait du bien. Donc, si vous travaillez en particulier dans le contexte de l'entreprise, je pense que c'est un lieu où on peut faire avancer le sujet de la neurodiversité et l'acceptation des différences cognitives et neurologiques. Pourquoi? Ben, tout le monde connaît l'impact des entreprises sur notre vie. On peut penser ce qu'on veut dessus, mais c'est un impact énorme. Ça veut dire aussi qu'il y a un intérêt possible pour les entreprises à devenir vraiment neuro-inclusives, parce que ce qui est en jeu, c'est leur performance et leur productivité. Parce que s'ils veulent être à même d'innover et d'apporter des réponses aux défis du monde moderne, ben, il va falloir faire rentrer et laisser s'exprimer des gens qui ont des profils atypiques. Parce que toutes les entreprises qui refuseront de le faire, elles vont mourir. Ben, c'est simple.
C'est très simple.
Elles vont pas passer le cut, comme on dit. Elles vont disparaître. Et des exemples d'entreprises très puissantes qui ont disparu corps et biens en quelques temps, il y en a plein. C'est OK de s'identifier, aller vers un diagnostic si vous pouvez, et vous n'êtes pas tout seul en entreprise. Et on peut se connecter, on peut discuter, et ça peut constituer une force de changement.
C'est une forge de changement. On va rester là-dessus, le côté, voilà, vous n'êtes pas seul et attention aux entreprises, hein, si vous ne laissez pas parler les neuroatypiques, vous courez à votre perte.
Bah
écoute, merci encore Pierre pour tous ces échanges. Et on continuera à suivre en effet ce qui se passe du côté d'Ubisoft, parce que je sais qu'il y a plein de choses aussi dans les cartons qui vont bientôt arriver. Et bah, de mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.